Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Blabla FM. Nous sommes une classe d'élèves de 3e au collège François Rabelais à Montpellier. Aujourd'hui, nous allons vous partager nos réflexions et nos témoignages à propos du langage. On vous propose une émission en direct et en public. T'es prêt, Noah ?
Eh oui, Joy, nous sommes tous prêts. À travers ces témoignages, nous allons vous partager nos questionnements. Est-ce qu'on s'adresse à tout le monde de la même manière ? Existe-t-il seulement un langage parlé humain, corporel ou bien écrit ? Y a-t-il un lexique lié au monde professionnel ?
Eh bien, Noah, nous allons le découvrir ensemble. Nous aurons également la chance d'accueillir sur ce plateau M. Soufiane Heuit, qui est éducateur et écrivain.
Merci Joy et Noah. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Naïla. Je suis accompagnée de Louis. Nous allons présenter la première partie de cette émission.
Bonjour. Pour démarrer cette émission, on vous propose d'écouter un enregistrement fait par les filles de notre groupe, Dina, Malak, Alice et Naïla. On écoute.
Je suis une fille, on me dit souvent que je ne peux pas sortir à partir d'une certaine heure et j'ai envie de répondre qu'on devrait pouvoir sortir n'importe quand sans conséquence derrière.
Je suis une fille, donc on me dit souvent de rester sage, de ne pas trop parler et de faire attention à mon image. Et j'ai envie de répondre, je suis libre d'être moi-même et d'avoir de l'ambition.
Je suis une fille et donc on me dit souvent que c'est pas normal de savoir se battre. Et j'ai envie de leur répondre que j'ai toujours grandi qu'avec des garçons. Donc j'ai pris quelques habitudes comme savoir se battre.
Je suis une fille donc on me dit que je ne sais pas me battre. Et j'ai envie de répondre que je pratique un sport de combat. Sachez qu'une femme peut mettre un homme KO.
Je suis une fille et on me dit souvent d'être une fleur fragile et jolie. Et j'ai envie de répondre qu'on peut aussi être la tempête, les racines et le feu.
Quand on écoute ce témoignage, on comprend que la manière dont on s'adresse à nous peut être complètement différente selon qui on est. C'est vrai qu'on ne dirait peut-être pas à un garçon qu'il ne sait pas se battre.
Et oui, Louis, à ce propos, on va écouter Dina qui va justement nous parler de sa pratique d'un art martial, le taekwondo.
Il y a deux adversaires qui s'affrontent sur un tapis appelé tatami. Le combat est de 3 rondes de 2 minutes et 1 minute de pause chacun. Coup de pied plastron 2 points. Coup de pied avec rotation 3 points. Coup de pied à la tête 4 points. Coup de poing au plastron 1 point. 6 jack, c'est ce qu'on dit au début du combat. On se salue, puis on ne peut plus parler. C'est le corps qui parle.
Le langage du corps, que l'on peut retrouver dans différentes pratiques artistiques et sportives. D'ailleurs, c'est maintenant au tour d'Elia, qui s'est présente sur le plateau, de nous parler de sa pratique de la danse.
J'avais 5 ans quand j'ai commencé la danse avec ma sœur. Puis, en 6e, j'ai déménagé à Montpellier. Pour moi, c'était inimaginable de ne plus faire d'activité et surtout de dire adieu à la danse et au gala de fin d'année. Ce que j'aime surtout, c'est danser avec les autres. Être ensemble, faire des chorés, etc. On a travaillé pour le spectacle et enfin, en arrivant en coulisses, je retrouve l'excitation, le stress, la joie, l'émotion et mon amour pour la scène, dont je me sens plus vivante que jamais. Quand on danse tous ensemble, j'ai l'impression qu'on est dans une bulle. Dans cette bulle, on peut crier ce que l'on ressent en oubliant tout le reste. Et une fois que nous avons fini, les applaudissements sonnent comme des câlins rassurants qui nous donnent l'étincelle pour ne jamais abandonner. Quand je regarde les autres danser, je suis éblouie par la passion qui anime leur corps et qui semble conter une belle histoire que je voudrais sans fin. Alors après le déménagement, on a trouvé une activité où il y avait de la danse, du théâtre et du chant, la comédie musicale. Même si je ne sais pas chanter, ma sœur, si, j'adore la danse et je voulais essayer le théâtre, donc on s'est lancé dedans. J'ai rencontré des personnes incroyables et avec mon groupe, la scène était encore plus belle. Cette année, c'est ma 4e année, le groupe a changé, mais avec ceux qui restent, on a encore fait un spectacle magnifique.
Merci Elia pour ce partage. Allons maintenant voir du côté des animaux qui eux aussi ont leur langage bien à eux. Joy va nous raconter ce qu'elle en sait.
Moi j'ai une passion, c'est les chevaux. J'en ai 5 dans ma famille. Mon préféré c'est Ragnar, mais moi je l'appelle Caramello parce qu'il est tellement bourrin qu'on dirait un caramel. Dès que je mets un pied dans le champ, il est tellement content qu'il vient me voir en courant, jusqu'à foncer dans les buissons. Il reconnaît quand c'est moi qui rentre. Je sais toujours quand il est content ou pas. Quand il est content, il vient me voir au galop, en posant sa tête sur mon épaule. Il attend que je le caresse. Quand il a faim, il met son museau dans mes mains. Et quand il est énervé, il part au galop, en donnant des coups de queue. C'est incroyable. Je trouve qu'on a construit notre langage, on a une connexion.
Merci à toi, Joy, pour ce témoignage touchant qui parlera sans doute à toute personne proche des animaux.
Enfin, pour conclure la première partie de notre émission, nous allons écouter un micro-trottoir réalisé par notre groupe. À tout de suite. Bla, bla, bla.
Bonjour, je m'appelle Noah. Nous effectuons un micro-trottoir sur le thème du langage et nous souhaitons vous poser des questions. Est-ce que vous serez d'accord ?
Oui, bien sûr.
Je voulais vous demander, est-ce que dans la vie quotidienne en cours, est-ce que vous entendez des mots que vous ne comprenez pas ?
Oui, ça m'arrive.
Lesquels ?
Alors, j'entends beaucoup de mots du genre Zarma. J'entends aussi des mots genre Starfula. Alors, il y a aussi le mot gaze que je ne comprends pas, voilà. Et puis également le mot bader, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Est-ce que vous parlez différemment au travail et entre le travail et votre maison
Oui, bien sûr. Au collège, on a un langage qui est très adapté, hein. On essaye de parler donc un français, bon, on ne dirait pas parfait, mais quand même un français juste, hein. Le français scientifique est un français très simple. Parce que le plus important dans la science, c'est le sens. Voilà.
Parlez-vous une autre langue ?
Oui, l'anglais et l'espagnol.
Espagnol et anglais.
Le bambara. Comment vous dites « va dans ta chambre en bambara » ? En bambara, on dit « pitascolo ».
Oui, je parle français et anglais.
Oui, l'arabe.
Est-ce que tu parles une langue différente chez toi ?
Oui, je parle arabe, français et espagnol.
Oh, c'est bien ça ! Donnez-moi trois mots en arabe.
Tefah, banane, limoun. Pomme, banane, orange.
Oui, j'ai quelques notions. J'ai quelques notions en espagnol et en anglais notamment.
Quel est le type de langage que vous aimez le moins ?
Langage vulgaire.
Vulgaire.
Quel est le mot que vous dites le plus souvent ?
Oups.
Dehors.
Quelle langue aimeriez-vous parler ? Arabe.
L'arabe, le délija.
D'après vous, qu'est-ce qu'un dialecte ?
Une manière de parler par un ensemble de population.
Avez-vous un mot d'un dialecte qui vous vient à l'esprit ?
Bismillah.
Époustouflant. Ok, merci, au revoir.
Tu parles bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla 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 bla.
Et bonjour, nous reprenons l'antenne sur notre émission Blabla FM, où Joy et moi-même, Elia, reprenons l'animation pour cette deuxième partie.
Et coucou, moi c'est Joy, et nous venons donc d'écouter notre micro-trottoir, où on se rend bien compte qu'il n'est pas toujours facile de se comprendre, même quand on parle la même langue.
Et pour continuer sur cette question du langage et de ses différences, Louis et Noah souhaitent nous faire part d'une expérience qu'ils ont vécue. La parole est à vous.
Aujourd'hui, on va vous parler de la sortie faite avec la classe autour de la journée de sensibilisation aux handicaps.
Ce jour-là, on avait fait un exercice où on nous avait mis un bandeau sur les yeux et on devait se repérer comme si on était aveugle. C'était très bizarre de devoir se repérer dans une salle sans rien voir. On a dû se concentrer sur les sens du toucher à l'aide d'une canne. J'ai pas l'habitude.
Moi, je me souviens d'un monsieur qui avait écrit un rap pour raconter son accident de voiture. Il avait conduit après avoir bu de l'alcool et avait donc fini par percuter un poteau. Depuis son accident, il avait des difficultés pour marcher. Maintenant, il utilise le rap comme outil de prévention sur les dangers liés à la consommation d'alcool.
Son histoire m'avait marqué et beaucoup touché. Et je trouve ça intéressant d'utiliser le rap pour ça, car c'est plus interactif et donc plus parlant pour les gens de notre génération. Je pense que ça permet de mieux toucher les jeunes pour éviter qu'ils reproduisent les mêmes choses.
Oui, c'est stylé. Moi, je me souviens avoir appris à signer l'alphabet et mon prénom en langue des signes. D'ailleurs, en langue des signes, pour nommer quelqu'un, on lui attribue un signe distinctif qui le représente. Par exemple, pour moi, ça pourrait être les lunettes, et pour toi, Louis, un signe qui représente tes cheveux bouclés.
Tu as appris d'autres mots ?
Oui, je sais dire « bonjour, comment ça va ?». D'ailleurs, dans la famille de ma tante, il y a des personnes sourdes, mais on ne m'a jamais appris la LSF, langue des signes française. Je trouve que si on apprenait tous la langue des signes dès l'enfance, les personnes sourdes ne seraient peut-être pas considérées comme étant handicapées.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai, on est tous humains après tout.
Merci beaucoup de nous avoir parlé de ça. Ça doit être compliqué d'avoir une langue que tout le monde ne comprend pas, tu trouves pas, Joy ?
Mais oui, pour explorer un peu plus notre vaste sujet, Naïla va nous parler des différents accents et du mélange entre culture, famille et langage.
Alors, beaucoup de Français restent attachés à ces particularités, cette musicalité régionale. C'est une façon d'exprimer leur identité, que ce soit le ch'ti, l'alsacien ou le toulousain. Écoutons.
Je n'ai pas de famille qui parle comme on parle dans le sud. Toute ma famille en France habite dans le nord. À Skip, ils disent que j'ai un petit accent bizarre. Pourtant, pour moi, je parle normalement.
Elle dit qu'est-ce que c'est beau, on dirait que vous chantez quand vous parlez.
Plus les gens du nord qui ont un accent que nous.
Moi, je m'entends pas. Pour moi, je parle normalement.
On est dans le sud, on parle du sud et puis c'est tout.
Mes grands-parents mélangent l'arabe et le kabyle. C'est deux langues différentes, elles ont des sonorités différentes. C'est compliqué de se comprendre, ma prononciation n'est pas toujours la bonne, mais j'ai beaucoup appris avec eux. Quand mes grands-parents parlent en kabyle, je comprends pas tout, mais quand ils parlent en arabe, je comprends. Le seul mot que je sais dire en kabyle, c'est « arom », ça veut dire « pain ».
C'est vrai que l'accent du sud est plutôt chantant.
Et maintenant, on va écouter Ayman nous parler de son rapport à la religion.
Moi, j'ai été toujours curieux, depuis tout petit. Dans ma famille, on est musulmans et logique que je le suis aussi. Moi, j'aime bien ma religion. Et je crois que c'est de là que j'aime me poser plein de questions. Par exemple, une qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi les musulmans sont-ils si accueillants? Ça me choque quand... Comme tu vois, chez un musulman, il t'accueille et t'héberge chez lui comme si c'était un membre de ta famille. Une fois, on était au Maroc avec ma famille et c'était le soir. Je vois un voyageur qui avait l'air de ne pas trouver d'hôtel, pas d'endroit pour dormir. Et là, depuis ma fenêtre, je vois un de mes voisins ramener l'homme chez lui. Mais peut-être, c'est pas qu'une question de religion. Je sais pas. Et puis, il y a autre chose. Il y a un truc que je trouve génial. C'est l'idée que tous les musulmans fassent la prière en même temps dans le monde entier et que les paroles prononcées soient les mêmes, peu importe que ce soit arabe ou pas, qu'on parle bien l'arabe ou pas. En fait, si je réfléchis, je crois que j'ai eu de la chance. J'ai vraiment pas eu le choix de cette religion. C'est venu comme ça dans ma famille. Et en fait, je l'aime bien.
Merci Ayman pour ce partage tout mimi. C'est touchant d'entendre des choses positives qui font du bien.
Normalement, nous aurons dû laisser la parole à Adem, qui n'est malheureusement pas là. Mais du coup, on va vous passer Alice avec ses expressions préférées.
Toi, t'es vraiment pas la chips la plus croustillante du paquet. Mais vraiment pas. T'es vraiment pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Mais vraiment, vraiment pas.
Nous accueillons maintenant sur notre plateau Soufiane qui nous fait le plaisir de bien vouloir répondre à nos questions pour notre interview.
Bonjour Soufiane et merci d'être présent avec nous sur ce plateau. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter ?
Donc, bonjour, je m'appelle Soufiane Hutt, je suis éducateur auprès de jeunes en situation de délinquance et en même temps je suis auteur.
Et moi j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le métier d'éducateur ?
Moi j'ai grandi ici à côté, à la Payade. On va dire dans mon entourage familial proche, amical, il y avait beaucoup de gens dans cette situation de délinquance. Et quand on est petit, on a 8 ans, 9 ans, 10 ans, on essaie de les aider, ça marche pas. Et avec le temps, on arrive à comprendre qu'il faut un peu plus de savoir-faire et que la simple bonne volonté d'aider. Donc voilà, il a fallu que je me forme, que j'aille à l'école d'éducateur et que je fasse ce métier.
Comme vous l'aurez compris dans cette émission, on parle du langage. Et vous, dans votre métier, comment arrivez-vous à communiquer avec les jeunes ?
Alors déjà, nous, les éducateurs, on n'a pas d'outils. Par exemple, un mécanicien, il a une caisse à outils, un chirurgien, il a un scalpel, tout ça. Nous, on n'a que la parole. C'est-à-dire, on peut faire des activités, etc. Mais en réalité, un éducateur, c'est quelqu'un qui tchatche, qui doit aimer tchatcher. Et donc, avec les jeunes, il faut essayer de créer du lien, ce qu'on appelle le lien éducatif, créer une relation pour que la personne nous fasse confiance et qu'on puisse l'amener à changer. Parce qu'en fait, un éducateur, ça doit amener la personne à se poser les bonnes questions pour pouvoir évoluer. Donc, si on ne parle pas, on n'y arrive pas. Donc, il faut arriver à parler, arriver à trouver un langage qui résonne, qui parle à la personne pour pouvoir avoir justement un échange un peu plus de mots mais plus d'émotions. Et normalement, si on fait bien son travail, à un moment donné, le lien de confiance il se fait et on peut commencer à travailler avec la personne.
On se demandait entre nous, est-ce que vous êtes tolérant avec les jeunes que vous accompagnez ?
Non, je suis pas tolérant parce que la tolérance, c'est-à-dire je supporte quelqu'un, mais bissif quoi. C'est-à-dire je le supporte en prenant sur moi. Non, on n'est pas tolérant en fait, on est compréhensif. C'est plus le mot compréhensif que tolérant. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre d'où ils viennent. Et je pense que certains, si j'avais eu la même vie qu'eux, ou si j'avais eu moins de chance qu'ils ont eu, j'aurais été au même endroit. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Et après, on essaye de parler vrai, c'est-à-dire de dire les choses. En tout cas, moi, j'essaye de dire les choses aux jeunes, les choses qui plaisent et les choses qui ne plaisent pas. Et après, le jeune, il a le droit de réagir comme il a le droit de réagir. Mais sa réaction, c'est toujours un deuxième temps. Ce n'est pas une action, il y a quelque chose qui a poussé sa réaction. Et je pense que si moi on me mettait dans un foyer, parce que moi je travaille dans un foyer, avec des échéances, des audiences, etc., je pense que je ne le vivrais pas forcément bien. Ils ont un flou sur leur avenir, ils ont un flou sur ce qui les range au moment présent. Et donc on ne doit pas être tolérant, parce que sinon ça voudrait dire qu'on est mieux qu'eux, mais juste compréhensif. Et sincèrement, moi je pense que si j'avais eu la même vie qu'eux, je serais peut-être dans un endroit pire qu'eux.
Et maintenant, on voudrait partager avec vous des petits textes que Dina, Alice et moi-même avons écrits lors d'un atelier d'écriture pour cette émission. On revient à notre interview juste après.
Selon les mots utilisés, le message que l'on veut faire passer peut être mal compris. Si tu ne t'exprimes pas bien, le sens peut être confus. Le ton de la voix change tout le sens d'une phrase. Les mots s'adaptent aux expressions de notre visage. Les gens vont énormément considérer ton expression faciale. Un sourire peut changer le sens d'une phrase. Les yeux peuvent parler à notre place.
Son absence fait plus de bruit que sa présence. Le deuil est une pluie qu'on porte à l'intérieur. Le souvenir devient refuge quand l'adieu est trop lourd. Le silence, après, lui, pèse comme un cri qu'on n'entend plus. Chaque larme est une trace de ce qui a compté.
Quand on réfléchit trop, on repense souvent au passé. Les souvenirs reviennent sans qu'on le veuille, surtout si quelque chose nous y fait penser, comme une musique ou une odeur. Parfois c'est agréable, mais d'autres fois cela peut rendre triste. Trop réfléchir nous empêche de vivre le moment présent.
Pour vous expliquer un peu le contexte, on a fait cet atelier d'écriture avec Wakadi pour préparer notre émission de radio. Moi l'écriture c'est pas mon truc, même que je déteste ça. Mais là j'ai beaucoup aimé cet atelier. Ce qui m'a plu c'est la manière dont on a utilisé les mots pour inventer des phrases, c'était comme un jeu, ça m'a aussi permis de m'exprimer sur ce que je pense.
Pour moi, à l'inverse de Gina, j'aime beaucoup écrire, je peux écrire des poèmes, tenir un journal, bref, plein d'autres choses. Et toi Alice, quel est ton rapport à l'écriture ?
Moi ça dépend des périodes, j'écris de temps en temps pour moi, pour exprimer ce que je n'arrive pas à dire. De manière générale, j'aime bien écrire. Soufiane, est-ce que vous avez un retour à nous faire, ce qu'on vient d'écouter ?
Un retour, je sais pas, mais je pense que les... Le parler et l'écrire, il est lié. L'être humain, mais c'est pareil quand vous êtes né, en fait, on parle avant d'écrire. L'être humain, dans l'histoire, il a parlé avant d'écrire. Et écrire, en fait, c'est juste pour ne pas oublier. Mais par contre, il y a un problème avec la parole, et je pense qu'on n'en a pas assez conscience, c'est parler, c'est mal traduire ce qu'on pense. Voilà. Donc des fois, nous, c'est clair, sauf qu'on a une myriade d'émotions derrière un mot, et la personne, quand elle l'entend, donc ça rentre dans ses oreilles, elle a aussi une myriade d'émotions qui ne sont pas les mêmes, et elle essaie d'interpréter pourquoi la personne a dit ça. Et en fait, c'est qu'un jeu d'interprétation, et c'est pour ça qu'on se comprend mal. Et écrire, l'avantage avec l'écriture, c'est que ça permet de poser à plat, de bien réfléchir, de raturer, de revenir en arrière. On n'a pas l'immédiateté du dialogue, où là, il y a des réactions. Quand, par exemple, vous commencez une phrase, la personne a froncé ses sourcils, vous allez changer votre phrase parce que vous percevez que la personne comprend moins bien. Vous voyez ? Et ça peut être pareil, en fait, avec la communication non-verbale, vous en avez parlé un peu plus avant. Donc, c'est important de lier les deux. La parole et l'écriture, il y a une spontanéité de la parole, effectivement, avec une primauté. Mais dans l'écriture, il y a quelque chose qui vous permet d'être un peu comme quand, une infusion, quoi. Quand vous mettez un sachet de thé dans de l'eau chaude, ça prend du temps. Ben, cette écriture, c'est le temps. Donc, il faut juste savoir que quand on parle, c'est toujours incomplet et c'est toujours une mauvaise traduction de ce que vous pensez. Et donc, si vous voyez en face que la personne qui ne comprend pas, il faut répéter avec une autre façon, etc. etc. Et ça, je pense qu'on l'oublie, parce qu'on pense que c'est assez clair ce qu'on dit, alors que non.
Et je me demandais, est-ce que vous pouvez nous raconter quel est votre rapport à l'écriture et comment l'envie d'écrire des livres est venue ?
Alors, moi, j'ai un rapport à l'écriture qui est un peu un peu vital, quoi. J'ai toujours écrit. Moi, j'ai, comme je dis, je raconte souvent, j'ai commencé le rap à 13 ans. À l'époque, il n'y avait pas d'autotune. Donc, soit tu sais rapper, soit tu ne sais pas rapper. Donc, j'ai arrêté à 14 ans. Ah, réponse assez classique. Mais j'ai continué d'écrire. J'ai continué d'écrire parce que quand on écrit, on est tout le temps, en tout cas moi c'est mon rapport à l'écriture, on est plus pertinent, on voit le monde avec plus d'acuité et on arrive à dire les choses beaucoup plus précisément que quand on parle. D'ailleurs, si je parlais comme j'écrirais, vous diriez, ah, le mec il a cru que c'était Cyrano, quoi. Donc on ne peut pas parler comme on écrit. On est beaucoup plus précis dans l'écriture parce que la parole est incomplète. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'immédiateté, etc., les émotions. Et donc, pour moi, il est important d'écrire. Et même avant de, je sais pas moi, vous préparer cette émission, bah vous avez écrit, vous avez des fiches, vous avez écrit. Vous préparez demain un discours, vous n'allez pas à la one again, quoi, l'expression de vieux, mais vous n'allez pas les mains dans les poches en vous disant bah, je vais faire le discours. Non, vous l'écrivez. Ça vous permet de tester, ça vous permet d'aller plus loin. Un mot engendre un autre. Et après, bien sûr, vous l'interprétez à l'oral. Donc, l'écriture, pour moi, c'est vital parce que ça me permet de mieux penser qui je suis, ce que je pense et pourquoi je le pense. Et après, j'ai la chance de pouvoir écrire des histoires. Et donc, à travers les histoires, les romans, etc., tout ça, c'est des prétextes. J'aborde des sujets qui, pour moi, ne sont pas encore assez abordés, etc. Donc, ça me permet aussi de délivrer un message, l'écriture. Ce que l'oral ne pourrait pas faire, parce qu'en fait, je peux que parler aux gens qui sont à côté de moi. Quoi. Faut être hyper méga connu pour pouvoir parler à la terre entière. Tandis que l'écriture me permet de parler à des gens que je ne connais pas, que je ne connaîtrai peut-être jamais.
Et comme on est un peu curieux, on aimerait avoir de quoi parlent vos livres. Quels sont les thèmes que vous abordez dans vos ouvrages?
Avant ça, il y a chez nous, dans le monde de l'éducation spécialisée, il y a un monsieur qui s'appelait Fernand Delini, qui avait écrit un bouquin, mais... où il disait, c'est important de décrire d'où je parle. Lui, il disait pas, je parle, voilà, il dit, je parle de ce... Lui, il travaille dans le milieu de l'asile, je parle d'asile, voilà. Et moi, pareil, je parle du quartier. Je parle du quartier parce que j'en suis et parce que j'en parle. Vous voyez, voilà, dans les deux sens du mot. Donc, mes thèmes, c'est la prison, la délinquance, l'intimité des familles dans le quartier. Le dernier parle d'islamophobie. Mais je vois, le but, c'est pas de parler que des quartiers. J'écris pas forcément sur le quartier, mais je parle... à partir du quartier. Et donc, c'est cette vision-là qui pour moi, est importante et singulière. C'est voilà, de toujours se rappeler d'où je parle. On oublie, en fait, qu'en France, on a quand même une littérature assez bourgeoise qui parle de la bourgeoisie, c'est-à-dire avec leurs valeurs à eux. Et on a très peu le contre-pouvoir. Très souvent, c'est assez misérabiliste, mais on n'a pas ce truc où la culture populaire se raconte sans être que dans le témoignage, c'est-à-dire se raconte dans la fiction, etc. Donc voilà. Donc, mes livres, ils parlent un peu de tout, mais ils parlent d'un endroit qui est le mien, dans lequel j'ai grandi, dans lequel je continue à évoluer. Quoi.
Apparemment, vous êtes aussi acteur de théâtre. Dans quelle pièce avez-vous joué?
Je ne suis pas acteur de théâtre, non. J'ai joué dans deux pièces, mais c'est le hasard. C'est le hasard. Ben, en fait, c'est l'adaptation du premier, du deuxième roman qui, au final, s'est trouvé que c'était moi qui devais jouer parce que les metteurs en scène, c'est ce qu'ils avaient prévu. Mais non, je ne suis pas acteur. Je ne saurais pas le faire pareil parce que je jouais un texte qui était le mien. Donc ça, j'arrive à le faire. Jouer un texte Cyrano, on parlait de Cyrano tout à l'heure, ou je ne sais pas, du Molière, ça, il faut être comédien. Il y a des gens qui ont pris des cours à l'école et c'est très bien, mais c'est pas, voilà, je ne passe pas des auditions, je ne fais pas de casting, je ne suis pas acteur. Mais j'ai eu cette chance-là de pouvoir mettre en scène deux de mes textes, en tout cas aider le deuxième mettre en scène, qui permet en fait de donner une dimension particulière. C'est-à-dire que le livre, c'est de la 2D et une pièce de théâtre, on est sur de la 4D. Voilà, parce que ça permet de toucher beaucoup plus proche, d'être beaucoup plus proche et de toucher beaucoup plus les personnes à travers une mise en scène et une incarnation du texte.
Et à part l'écriture, est-ce que vous avez d'autres passions?
Non. Non, j'ai ma femme, mes enfants, c'est une passion, mais non, j'ai pas d'autres passions. J'aime le sport, tout ça, mais le truc que je fais en fait en plus de mon métier, c'est l'écriture, quoi. Je fais que ça. Après, j'ai la chance que je fais un métier éducateur, donc éducateur plus écriture, c'est atelier d'écriture. Donc j'arrive dans mes à côté, c'est-à-dire dans l'extra-professionnel, à allier ma passion d'écriture avec ma passion de la relation éducative et faire des ateliers d'écriture. Quoi, c'est là, tout le mois de mai, tout le mois de juin, je suis à la Payade, il y a une résidence, etc. artistique, où je serai beaucoup dans les collèges, la SAS, c'est-à-dire la prison de courte peine à côté de Romédecine, et différents autres lieux où je vais pouvoir donner des ateliers d'écriture. Et là, moi, je m'éclate vraiment parce que je transmets, parce qu'on pense que l'écriture, c'est compliqué, etc. Non, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de comprendre que c'est pas compliqué. Ça, c'est compliqué. Parce qu'on a tout mis en place pour que ce soit compliqué. Mais donc du coup, je m'éclate à être avec des jeunes, avec des vieux, avec toute personne, à leur apprendre en fait à juste redécouvrir que écrire, c'est juste penser et mettre à plat, avec faute d'orthographe ou pas, ça c'est pas la question.
Merci beaucoup Sofiane d'avoir répondu à nos questions et merci à nos intervieweurs. Nous allons maintenant entendre Juliana qui a voulu écrire sur l'amour. On l'écoute tout de suite.
Aujourd'hui, je vais vous partager mon avis sur les différentes manières d'exprimer ses sentiments. Pour moi, l'émotion peut diriger nos actions, notamment concernant l'amour qu'on porte à quelqu'un. L'amour, c'est un sentiment puissant et sincère que nous ne contrôlons pas. Il est inattendu. Des fois, nous faisons des actions inexplicables, des choses que nous n'avons pas eu l'intention de faire quelques minutes auparavant. Pour moi, l'amour nous donne toujours la volonté et la motivation de donner de l'importance à la personne aimée. Que ce soit de lui faire des grands cadeaux, de nous rendre à des destinations de rêve, ou juste d'avoir des petites attentions, comme faire des déclarations ou passer du temps avec la personne. Je pense que nous voulons que la personne se sente bien avec nous, qu'elle soit à l'aise, en confiance ou tout simplement elle-même. C'est pour cela que nous pouvons être aussi gentils, attentionnés et chaleureux. C'est l'impact de l'amour, de l'attachement et des sentiments. Quand on tient à quelqu'un, toutes ces petites attentions, sans importance et banales, deviennent importantes. On fait attention à chaque petit détail pour que ça plaise à la personne en question. En amour, on peut communiquer de plusieurs manières, que ce soit par le regard, les paroles ou le temps passé avec la personne. D'ailleurs, le regard en dit long sur ce que l'on ressent. Des fois, il parle à la place des mots. Je trouve que c'est le plus complexe, les paroles. Dire « je t'aime » ou faire une simple déclaration ne suffit pas à prouver ce que l'on ressent. Mon langage d'amour à moi, il passe plutôt par les petites attentions et le temps que je passe avec la personne. Je ne vais pas beaucoup l'exprimer par les mots. Tout ce que je vous dis là, je le considère que ça comprend l'amour amical, amoureux et familial. Pour moi, c'est comme ça qu'on exprime son amour.
Merci pour ce beau partage, Juliana, qui clôture notre émission en beauté.
Et oui, on est à la fin de cette émission.
Merci à vous d'avoir écouté notre émission Blabla FM. Et merci à Soufiane d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci à l'équipe de l'association Wakadi.
On remercie aussi notre prof d'espagnol, Mar, d'avoir organisé ce projet. Muchas gracias.
Au revoir.
Adios.
Si tu te tais quand on te demande rien... Qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?